Coucou, ici Titouan, Karine et Juliette en direct des studios de Radio Languedoc. On est avec Juliette Schweitzer de TCNA, qui est une des associations requérantes demain, le 1er octobre. Karine Mikils, qui est ici aussi pour Greenpeace Montpellier, et moi-même pour Greenpeace Montpellier.
Est-ce que vous voulez déjà commencer par nous expliquer les enjeux du procès qui aura lieu ce mardi?
Oui, bonjour, je suis Juliette de l'association Transparence des canaux de la Narbonnaise, et nous invitons la population de l'Occitanie à venir nous soutenir. Mardi, nous passons devant le tribunal administratif de Montpellier à 10h30 et nous avons formulé deux requêtes en annulation concernant deux arrêtés préfectoraux qui autorisent l'usine Orano Cycle de Malvézy à transformer les déchets issus de sa production.
Donc à Narbonne, il faut savoir qu'il y a une usine qui existe depuis 60 ans maintenant qui porte bien son nom puisqu'elle s'appelle Orano Malvézy, ce qui en occitan veut dire mauvais voisin, et c'est le premier maillon du cycle nucléaire européen. Et cette usine-là qui déjà est source de pollution, qui est déjà source de pas mal d'incidents depuis 60 ans, se voit donc là accordé par la préfecture un projet qui s'appelle TDN Tor, qui est un four incinérateur à déchets nucléaires, déchets radioactifs. Voilà.
Et nitratés.
Donc ce four incinérateur va être une catastrophe sanitaire. Hein, des associations comme Rubresus, TCNA et Colère portent donc plainte contre ces arrêtés-là. Donc, vous requérez
une requête en annulation.
Voilà. De manière à ce que ce projet ne se fasse pas, puisque ça va être un désastre environnemental total pour le Narbonnais.
Donc là, vous attaquez du côté des pouvoirs publics pour annuler l'autorisation de mener à bien ces projets, c'est ça?
Oui, l'autorisation d'exploiter ce four qui va brûler seulement une petite partie de la production. Hein, il est présenté vertueusement comme permettant un jour de vider ces bassins. Il y a 350 000 mètres cubes de déchets nitratés et radioactifs dans des bassins à l'air libre, plus à peu près 700 000 déchets variés dans l'usine, 700 000 mètres cubes, pardon. Et l'usine, pour se donner un côté un peu vertueux, écologique, soucieux de l'environnement, a décidé d'acheter un brevet expérimental pour vaporiser ces déchets. Donc déjà, l'eau a été souvent polluée, la terre aussi. L'usine est à 16 mètres au-dessus de la nappe phréatique.
Ah ouais.
Donc c'est pas très loin. Hein.
Donc, comme vous dites, c'est un projet qui est expérimental, donc on n'est même pas sûr que même cet objectif-là serait correctement obtenu.
S'ils arrivent à faire ce qu'ils disent, ils ont juste absorbé la production de déchets de l'année. Donc ces déchets qui sont là, pour certains depuis 40, d'autres depuis 60 ans, ne vont être nullement résorbés. C'est juste quelque chose pour continuer à produire plus. Voilà, parce que maintenant, Narbonne veut être un centre d'innovation pour l'industrie nucléaire.
Oui, parce qu'en ce moment, en plus, il y a une grande consultation qui est lancée sur justement l'avenir des déchets radioactifs. Vous pensez qu'ils essaient de bénéficier de ce contexte politique pour dire, voilà, nous, on a une solution ici?
Oui, et puis peut-être ils veulent aussi expérimenter ce processus pour le vendre à la Chine ou ailleurs, parce que le monde entier est submergé de déchets nucléaires.
Est-ce qu'on peut revenir justement sur la pollution que ça pourrait engendrer, et du coup très directement pour la population de Narbonne, sachant qu'il y a un historique avec Malvézy, peut-être vous pouvez aussi en rappeler un petit peu. Hormis ces projets-là, elle a déjà une histoire pas très jolie sur justement tous ces déchets qui étaient à ciel ouvert. Il y a eu, des coulées qui ont affecté des riverains. Et là, qu'est-ce qui se passerait du coup avec ce projet Tor?
On peut revenir sur le passé. En 2004 et à nouveau en 2006, des digues de bassins se sont effondrées suite à des fortes pluies répandant à chaque fois quelques 30 000 mètres cubes de déchets dans la plaine agricole, car cette usine est non seulement aux portes de la ville la plus peuplée de l'Aude, mais au cœur d'une région viticole et maraîchère, avec aussi des oliviers, des arbres fruitiers. Bon, depuis, il y a eu des travaux de réfection de ces digues, et les bassins qui contenaient non seulement les résidus du raffinement du minerai, mais aussi des résidus qui prouvait que l'usine avait retraité discrètement, de 1950 à 1973, du combustible issu des centrales nucléaires. Donc du combustible qui a généré du plutonium. Donc il y a encore des traces de plutonium dans les bassins. La CRIRAD a justement analysé les boues qui étaient arrivées aux portes d'habitation de riverains, qui avaient des champs ou des fermes ou des maisons à côté. Et la CRIRAD, Commission de recherche d'informations indépendantes sur la radioactivité, a découvert de l'américium en analysant ses bouts, qui montre qu'il y avait du plutonium. La CRIRAD aussi vient régulièrement ausculter la radioactivité qui se répand autour de l'usine. Il y a des flux.
Mais là, sur ces questions-là, il n'y a jamais eu de solution, enfin en tout cas, ça ne s'est jamais présenté devant les tribunaux.
Oh, il y a eu quelques condamnations quand même.
Il y a eu des condamnations, mais des condamnations mineures.
Oui.
Il y a eu des condamnations financières, il y a eu, je sais plus.
Quelques milliers d'euros, pas grand-chose.
Hein. C'est vrai que des condamnations.
Mais... Et puis l'ASN l'a obligé à classer une partie des bassins en installation nucléaire de base. Mais elle l'a fait parce que les associations locales ont porté haut et fort la nécessité et le fait que l'usine n'était pas dans la légalité, vu tout ce qui était à l'intérieur.
Ça veut dire que jusque-là, elle n'était donc pas considérée comme... Enfin, d'ailleurs, publiquement, c'était assez peu connu qu'il y avait des déchets nucléaires là-dedans, même s'ils étaient peut-être moins radioactifs que d'autres, mais quand même, c'est du déchet nucléaire.
Ben, en fait, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que s'il n'y avait pas eu la coulée de boue, on n'aurait jamais su qu'il y avait de l'américium 241 dans ces bassins B1 et B2. Donc, on ignore ce qu'il y a dans les autres bassins également. On ne peut que se cantonner sur les bons dires d'Orano. Et en plus de ça, ben, au niveau de l'administration, le ministère de l'Environnement, il n'y a pas de transparence. On n'a pas de vue sur le contenu exact de ces bassins.
Mmh. Non. Et l'usine dit publiquement qu'elle fait 23 000 analyses par an, de l'eau, de l'air, du sol, étant donné qu'elle rejette quand même une partie de ses rejets liquides dans un canal qui va traverser la ville de Narbonne pour finir dans la Méditerranée. L'association Transparence des canaux de la Narbonnaise a saisi la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, qui a ordonné à l'industriel et au ministère de l'écologie de nous remettre ces analyses. Nous les attendons toujours.
Pour parler un peu de la pollution, donc Juliette a parlé de la pollution passée, sur ce projet TDN Thor particulièrement, Rubresus, qui est une des associations qui va en justice contre Orano le 1er octobre, eux, ils ont rendu plusieurs rapports extrêmement intéressants, extrêmement complets scientifiquement, et donc je vais donner quelques chiffres là sur la pollution que rejetterait ce projet TDN. Donc le projet TDN rejetterait à raison de 12 000 mètres cubes par heure, l'équivalent de la pollution émise chaque jour par 48 000 véhicules diesel effectuant chacun 6 km, ou l'équivalent d'un tronçon de périphérique parisien. Donc on n'est pas seulement sur de la pollution radioactive, on est aussi sur de la pollution toxique, de particules fines, d'émissions de gaz à effet de serre. La consommation de ce projet en termes de ressources naturelles, ce serait environ, toujours selon Rubresus, 80 000 mètres cubes par an d'eau, soit une commune, environ la consommation d'une commune de 1500 habitants, 5 700 tonnes par an de charbon, 2000 tonnes par an de gaz naturel et 10 000 mégawatts d'électricité. Donc ça fait que les émissions de gaz à effet de serre produites par cette usine de Malvésie augmenteraient son empreinte environnementale actuelle de près de 40%. Voilà, donc ça c'est directement impactable sur la santé des Narbonnais.
Et en plus je crois qu'il y a des questions de vent qui ont été... avancé comme argument par l'usine, comme quoi c'était une région très venteuse et que du coup ça...
Il y a près de 7 vents dominants à Narbonne, mais un des principaux est en effet dans l'axe complètement usine-ville.
Oui, et après ça va sur la Clap, donc sur les vignobles alentours. Il y a aussi un des polluants qui serait rejeté par ce four, par cette cheminée de 30 mètres, qui sera au milieu d'un paysage antique, au lieu de l'histoire, parce que c'était la première ville romaine. Il y avait une source qui faisait régulait thermiquement la ville, qui s'appelle le Yal. Il y avait des canaux, donc l'eau est à 18 degrés, ça chauffait la ville en hiver et ça la rafraîchissait en été. Maintenant, les 80 000 mètres cubes de cette source vont être intégralement captés par le projet TDN Thor. Et l'usine, elle, je ne sais pas, c'est 300 000 mètres cubes d'eau par an, je crois que tu utilises. Ils disent qu'ils en utilisent moins, mais bon.
Et donc cette cheminée-là va émettre une pollution supplémentaire, qui est celle de phtalates.
Oui, voilà, les phtalates, qui est un perturbateur endocrinien et qui agit à dose infinitésimale et qui, par exemple, quand il est dans les jouets, c'est quand il est dans... Ça doit être étiqueté, la présence de phtalates. Alors, ça se met particulièrement sur les feuilles de la vigne. Donc, comment va-t-on pouvoir protéger les gens ?
Le patrimoine naturel, ouais.
Oui, c'est bon, il y en a beaucoup dans les incinérateurs d'ordures ménagères aux sorties de...
Est-ce qu'on peut aussi parler de... Je vois que Greenpeace a fait un communiqué où ils incluent cette usine dans la stratégie nucléaire française de manière un peu plus globale filière nucléaire qui ne va pas très bien en ce moment, enfin en tout cas pour eux, où il y a pas mal de mauvaises nouvelles à répétition.
Ben oui, en fait, c'est ça qui est dramatique, c'est que cette usine qui est vieille maintenant de 60 ans, elle veut maintenant se faire passer pour la pointe de la technologie verte, en gros. Ils ont développé toute une communication il y a quelques années, c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs partenaires officiels de la COP21, EDF par exemple. Mais l'industrie du nucléaire en France, que ce soit EDF ou Orano, ont cette optique de vouloir passer leur énergie comme la meilleure alternative au réchauffement climatique, comme si c'était une énergie propre. Et en fait, là, Greenpeace, on est en train de travailler sur la question des matières et des déchets, parce qu'il y a le grand débat national qui a lieu jusqu'au 25, enfin qui a eu lieu, qui s'est terminé là le 25 septembre. Le but, c'est de faire prendre en compte certaines matières radioactives qui ne sont pas considérées par la loi comme étant des déchets, mais comme des matières valorisables, parce que éventuellement, dans 5, 10, 50 ans, on va pouvoir les réutiliser. C'est le cas, par exemple, de l'uranium appauvri. Et donc, Malvézy, pourquoi on a intégré Malvézy dans notre campagne sur les déchets ? Parce que ils veulent développer une deuxième activité. Hein, leur activité, à la base, c'est la conversion de yellow cake, c'est-à-dire l'uranium qui est extrait des mines. On le convertit en tétrafluorure d'uranium. Il y a quatre, c'est un des procédés avant l'enrichissement en isotope 235 et la mise en crayon pour que ça devienne du combustible. Et on est la seule usine de toute l'Europe à faire ça au passage. Mais en plus de cette activité-là, maintenant, ils veulent contribuer à la création d'un nouveau combustible, qui est le combustible MOX, qui est un combustible où on va réutiliser du plutonium qui est issu du combustible usé conventionnel, quoi, en gros. On va transformer ce plutonium en dioxyde de plutonium et on va le mélanger avec du dioxyde d'uranium qui est transformé, enfin c'est de l'uranium appauvri qui est transformé. Et donc c'est là-dessus où Malvézy intervient parce qu'ils veulent maintenant développer cette activité-là, c'est-à-dire de récupérer ou d'utiliser l'uranium appauvri qu'ils ont et de le transformer en dioxyde d'uranium pour l'envoyer directement à Marcoule où il y a l'usine Mellox qui crée le MOX, donc ce fameux nouveau combustible qui est 5 à 7 fois plus radioactif en termes de déchets. C'est vraiment un déchet ultime quand il sort du réacteur. Il y a 28 réacteurs sur 58 en France qui l'utilisent actuellement, déjà, ce MOX. Et en fait, il est 5 à 7 fois plus radioactif du fait de la présence de plutonium. Et comme Juliette me dit souvent aussi, on est dans une situation où on va avoir de moins en moins d'eau. Or, pour refroidir de tels déchets, un déchet avec du plutonium, ils sont beaucoup plus
difficiles les immerger,
à refroidir. Ouais. Et c'est beaucoup plus long à refroidir et du coup c'est beaucoup plus radioactif en termes de durée du fait de la présence de plutonium.
Est-ce que vous pensez que le tribunal administratif a une chance d'être sensible à tous ces arguments ? Quelles sont vos appréhensions, on va dire, avant ce 1er octobre ?
Un des arguments que va utiliser notre avocat, c'est le respect de la Convention de Barcelone. Oui. La Convention de Barcelone date de 1976, elle a été signée par ce qui était l'Europe de l'époque, et l'Europe a grandi, l'a signée aussi, c'est-à-dire que tous les États membres de l'Union européenne sont obligés de respecter la mer Méditerranée, et en particulier les usines qui sont près de la mer, ou les pêcheries aussi, mais les usines qui peuvent risquer de polluer la mer, doivent prendre en compte si leur activité risque de polluer la mer. Alors, le grand argumentaire de l'usine Orano actuellement, c'est que l'eau, ils ont installé, ils rejettent de l'eau dans un canal, le torrent, qui est alimenté par cette source, le Yal, cette source ancienne qui est près de l'usine, qui capte entièrement maintenant, et qu'ils ont intégré dans l'usine. Ils l'utilisent et après ils vont nettoyer leurs rejets et ce qu'ils ne vont pas envoyer dans les bassins, ils vont leur renvoyer après avoir filtré dans le torrent qui lui se jette dans la Robine, qui est un canal qui traverse la ville de Narbonne, 60 000 habitants, et ensuite va par un autre canal jusqu'à la ville de Port-la-Nouvelle et là va directement dans la Méditerranée. Donc, je pense que quand ils ont fait le projet TDN, les ingénieurs n'ont pas vraiment suffisamment pris en compte que la pollution rajoutée allait impacter durablement la mer Méditerranée.
Et donc aller à l'encontre de la Convention de Barcelone.
Oui.
Ok, ça pourrait être un point critique justement dans le déroulement du procès, vous pensez ?
Nous, en tout cas, avec Greenpeace, pour avoir lu les dossiers scientifiques rendus par ces associations, notamment par Rubresius, par TCNA, par Colère, leurs argumentaires, ils tiennent la route. Après, on ne peut pas préjuger, je crois, de ce que la justice rendra, mais ce qui est sûr, c'est que les argumentaires sont là, c'est que ces associations sont dans un droit extrêmement légitime, qui est un droit humain, qui est celui de vivre dans un environnement sain, qui là n'est pas respecté. Donc on espère bien que la justice saura faire la part des choses entre le lobby nucléaire et ces vrais arguments qui sont amenés sur la table par ces trois associations. Bon, et alors... pas qu'elles d'ailleurs, il y a plein d'associations locales qui luttent, qui font un travail fantastique à Narbonne depuis des années. On peut citer ADN, Arrêt du nucléaire, on peut citer SDN, Sortir du nucléaire, on peut citer les familles Papillon, TCNA, Rubresius, Colère, le Covidem, voilà, il y a tout un lot de gens. Énormément de gens, pardon si j'en oublie, y compris des individus qui luttent contre ce projet, et ce serait la moindre des choses que de leur rendre justice.
Bon, bah, une partie de ces associations, j'imagine, seront présentes avec vous ce mardi 1er octobre, donc pour assister au procès, ou en tout cas manifester la solidarité à l'extérieur.
On l'espère, en tout cas on invite tous les gens qui nous écoutent à venir, donc le 1er octobre à 10h. À 10h devant le tribunal administratif 6 rue Pitot, à côté du Peyrou, à Montpellier.
Et après, sur le site de tcnanarbonne.org, c'est-à-dire tcnarbonne.org, on fera un compte-rendu de l'audience. Il y a aussi notre site Facebook, notre page Twitter.
Mais on sera bien entendu là pour répondre à vos appels et vos interviews le jour de l'audience.
Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. The nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. It's a motherfucker, don't you know? They're talking about nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. It's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. They're talking about